Bonsoir. Merci d'être venu à la conférence de ce soir. Donc, nous avons invité Madame Fawzia Sharfi, qui est professeure d'université en physique, qui a été aussi pendant un temps assez bref ministre de l'enseignement supérieur, et qui vient nous parler d'un qui est aussi comme elle se présente elle-même, comme une militante de la première heure. Donc je pense qu'on pourra aussi parler de la Tunisie, de la situation de la Tunisie en général, mais nous ne l'avons pas invitée spécialement pour ça. Je rappelle le sujet. Le sujet, c'était de parler de la question de la science et de la liberté de la science dans le contexte musulman, plus spécifiquement dans le contexte de la Tunisie. Et... Donc, nous l'avons invitée parce qu'elle a publié cet ouvrage, La science voilée, l'année dernière, chez Odile Jacob. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et ça rentre absolument dans la thématique de nos conférences de cette année. À vrai dire, il y a deux sujets, je crois. Il y a la question de l'autonomie de la science par rapport à la religion. Et il y a accessoirement la question de la liberté académique, de l'enseignement et de la recherche à l'université également, qui est un sujet important. Et personnellement, je trouve que ce sont des questions qui ne sont pas assez traitées par les collègues ou par les essayistes. Ce sont des questions qui concernent bien sûr le monde arabe, le monde musulman, mais qui concernent aussi en réalité l'Europe. Et le livre montre aussi que le concordisme, le créationnisme qui se répand dans les sociétés musulmanes a des liens étroits avec ce qui se passe dans la droite chrétienne, notamment américaine, que ces thèmes passent d'un groupe à l'autre et se diffusent, qu'il y a des filiations intellectuelles de ces modes de pensée. Et le livre insiste aussi, je crois, sur les enjeux scolaires. Donc, comment installer un esprit scientifique dès l'école et comment permettre donc à la société de comprendre ce que c'est qu'un débat scientifique et la façon dont les questions scientifiques doivent être traitées sans que cela veuille dire qu'on rejette la religion ou qu'on rejette la foi, mais à chacun son domaine. Bon, je vais m'arrêter parce que ce n'est pas moi le conférencier et je vais vous donner la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui nous tient à cœur. D'abord, la liberté. Liberté et la science. Alors, la liberté, c'est ce que revendiquait Chokri Belaïd, le militant tunisien qui a été assassiné il y a bientôt un an, le 6 février 2013. Et je voudrais lui rendre hommage. Ce militant pour les libertés avait osé s'attaquer aux forces obscurantistes. Il voulait s'attaquer aux ennemis jurés de l'intelligence. Il avait plaidé pour la liberté de création et d'expression. Lors du procès intenté contre la chaîne de télévision Nesma, qui avait fait passer le film Persepolis de Marjane Satrapi, qui était traduit donc en arabe tunisien. L'accusation contre Nesma avait été largement mise à profit par les partis islamistes lors de la campagne électorale en septembre 2011 pour les élections à l'Assemblée nationale constituante, avant même que la discussion sur la Constitution ne soit engagée. Et Persepolis a été présenté comme un film portant atteinte aux bonnes mœurs et aux valeurs du sacré. Alors cette accusation, c'est aussi celle qui a été portée contre les artistes du palais Adelia. Donc en juin 2012, des œuvres artistiques exposées avaient été dégradées par des salafistes sous prétexte qu'elles portaient atteinte à la religion musulmane. Et deux artistes, Nadia Jlassi et Mohamed Ben Slema, avaient participé à cette exposition et sont poursuivis pour atteinte à l'ordre public, donc en vertu de l'article 121-ter du Code pénal. Alors, au cours de cette enquête, donc contre Nadia Jlassi, le juge lui a demandé à plusieurs reprises quelles étaient ses intentions, qui l'ont conduit à réaliser son œuvre. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, donc son œuvre, c'est une structure qui représente 3 bustes de femmes voilées reposant sur des galets et des pierres, bon, une représentation qui pourrait être interprétée comme une scène de lapidation. Alors Nédia Jlassi, maître de conférence à l'Institut supérieur des beaux-arts et directrice du département des arts plastiques dans cet institut, a fait l'objet de nombreuses déclarations contre elle, donc, dont on peut retenir le message essentiel. Il existe une grande différence entre la création artistique et l'atteinte au sacré. On peut réaffirmer l'attachement à la liberté de création et d'expression à condition de respecter le sacré. Ces réactions ont été appuyées par des propositions de députés islamistes à l'époque d'inscrire dans la future constitution tunisienne la criminalisation de l'atteinte au sacré. Une proposition qui avait été écartée il y a plus d'un an. Mais la pénalisation de l'atteinte au sacré est revenue suite à la pression des députés du parti Narda et de certains indépendants en réaction à l'introduction de l'interdiction de l'accusation d'apostasie, le takfir. Et donc, le 23 janvier dernier, soit 3 jours avant l'adoption du texte final de la Constitution, dont je me réjouis évidemment, comme beaucoup de Tunisiens, mais quand même, et il faut relever que l'article 6 donc, a été voté et cet article stipule que l'État s'engage à diffuser les valeurs de la modération et la tolérance et donc il s'engage à protéger le sacré et à interdire toute atteinte à celui-ci. Donc c'est quand même un article extrêmement dangereux parce que comment définir le sacré, c'est toute une question. Donc une disposition qui peut être utilisée pour réprimer toute interprétation aussi non orthodoxe de l'islam. En l'affrontement sur la question du sacré révèle le face-à-face entre 2 visions de la société, 2 conceptions de la place des femmes, 2 conceptions de l'État, du droit, des libertés, du savoir. L'une prônant le respect de la diversité et le droit de chacun à la différence, allant de pair avec les libertés de pensée, d'expression, de conscience, bon, qui est adoptée dans la Constitution, bien sûr, et de croyance, la liberté de création, et le questionnement sans limite et sans tabou. L'autre conception, rétrograde, passéiste, avec sa négation de l'autre et sa pensée unique, sa lecture unique du texte sacré. Cette vision intolérante est celle des garants de l'orthodoxie musulmane, représentant un islam clérical, celui des imams, des représentants officiels de l'islam, mais elle est aussi celle des défenseurs de l'islam politique. Je fais la distinction ici entre l'islam clérical et l'islam politique, et j'aurai tout à l'heure l'occasion de justifier cette distinction. Mais tant pour l'un que pour l'autre, donc pour l'islam clérical ou l'islam politique, la pensée ne doit pas s'opposer au dogme, elle doit s'inscrire dans l'identité arabo-musulmane. La référence à l'islam est nécessaire dans tous les domaines, y compris la science. Cette science, dont le référentiel est islamique, non seulement elle ne peut être en contradiction avec le texte, mais elle en est issue, y compris la science moderne. Et ce nouveau discours sur la science est développé depuis 40 ans à travers toute une littérature concordiste dont vous parliez et largement diffusée maintenant par Internet. Alors, à côté de cette littérature concordiste, s'est aussi développée une attaque de la théorie de Darwin, un rejet de l'évolution biologique. Alors, comment se présente ce discours concordiste? Ce discours anti-science, concordiste ou et anti-Darwin, c'est ce que je me propose de présenter dans un premier temps. Je tenterai ensuite de donner quelques éléments de réponse aux questions suivantes. Quel est le fondement de ce refus de la rationalité scientifique? Qui sont les acteurs de ce détournement de la science? Quel impact sur la jeunesse? Y a-t-il un contre-discours qui plaide pour une liberté de penser sans contrainte pour l'acceptation de la science qui n'implique pas de spécificité islamique? Alors, La thèse concordiste, on s'imagine, bien sûr, elle consiste à montrer que toutes les découvertes scientifiques, y compris les plus récentes, étaient déjà présentes dans le texte coranique. Cette thèse s'est développée particulièrement au milieu des années 70 et surtout avec le fameux ouvrage du médecin français Maurice Bucaille intitulé « La Bible, le Coran et la science, les écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes ». Et donc l'auteur traite de tous les sujets scientifiques, de l'astronomie, de l'évolution de l'univers, de la reproduction humaine, de la conquête spatiale, et veut démontrer, verset coranique à l'appui, l'antériorité du texte coranique par rapport à ses découvertes scientifiques. Et pour cet auteur, donc les énoncés scientifiques contenus dans le Coran, examinés à notre époque, je le cite, « apparaissent comme un défi à l'explication humaine, ce qui démontre sa provenance, la provenance divine et le caractère miraculeux du Coran ». Or, cette littérature concordiste s'est beaucoup développée, comme je disais tout à l'heure, avec le développement d'Internet, la facilité des communications aujourd'hui. Et ce que l'on peut voir, il suffit de cliquer « Islam et science » et vous allez tout de suite trouver les miracles scientifiques du Coran, l'Ajez Almi. Et les sujets traités, alors c'est aussi bien donc le développement humain, mais c'est beaucoup d'astrophysique. Et en tant que physicienne, donc j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu de près tous les développements concernant l'évolution de l'univers et le Big Bang. Alors à l'appui de la thèse que le Big Bang est inscrite dans le Coran, un verset est particulièrement cité, c'est le verset 21-30. Que je vous lis. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous les avons ensuite scindés. Nous avons tiré de l'eau toute matière vivante. Se décideront-ils à croire? Alors évidemment, la plupart des lecteurs n'ont pas la connaissance scientifique pour savoir ce qu'est exactement le Big Bang. Le Big Bang n'est pas la séparation entre les cieux et la terre. Et je voudrais citer Sadr Mazir dans sa traduction du Coran, qui écrit la note suivante à propos de ce verset. Certains auteurs modernes ont trouvé bon d'insister sur la parfaite conformité de cette vue du Coran à une récente hypothèse suivant laquelle l'univers serait le produit de l'explosion d'un élément simple. Nous pensons que le Coran n'a nul besoin de recourir à l'appui d'hypothèses foncièrement inconsistantes et sujettes au changement pour établir des vérités d'ordre éternel. Fin de citation. Alors, la présentation des miracles du Coran est analogue finalement d'un site à l'autre. Bon, à partir d'un verset du Coran, on va développer une théorie scientifique ou plutôt, je dirais, des bouts de science. Évidemment, cette démarche ne propose pas un véritable contenu scientifique et les explications scientifiques qui sont proposées sont souvent approximatives. Alors, il y a deux types de sites concordistes que je distingue. Il y a des sites qui sont très, très primaires, qui donnent une vision très élémentaire de la science. Et puis d'autres sites un petit peu plus élaborés, pour ceux qui les ont vus, effectivement, on peut faire cette distinction. Alors la première catégorie, elle s'attache à rassurer un petit peu le lecteur, donc elle lui montre une science très simple, facile à comprendre. Et donc ces sites veulent séduire par cette manière de présenter la science. Et certaines présentations se veulent attractives au point qu'elles sont de véritables mises en scène. Alors, je vais en citer une que l'on peut trouver sur le site islamfrance.free.fr dans une partie intitulée « Le Coran et la science », alors qui présente un chapitre sur la formation de l'univers, une nouvelle preuve sur le fait que le Coran est un véritable miracle. Alors, les auteurs illustrent le verset que je citais tout à l'heure, Et ils mettent face à face donc un prédicateur connu d'origine indienne, Ahmed Didat, et un interlocuteur qualifié d'homme de science. Alors, je vous donne quelques extraits. Ahmed Didat, vous, homme de science, qui avez étudié l'astronomie et qui étudiez notre univers à travers vos puissants télescopes, comme si vous scrutiez un objet dans la paume de votre main. Dites-moi, comment l'univers a-t-il pu exister ? L'homme de science. Eh bien, il y a des milliards d'années, notre univers n'était qu'une seule matière, quand une violente déflagration, en son centre, la fit éclater en milliers de morceaux qui volèrent dans toutes les directions. De ce grand fracas naquit notre système solaire, tout comme les galaxies. Ahmed Didat, quand avez-vous découvert cette histoire légendaire ? L'homme de science, non, ce ne sont pas des légendes, mais des faits scientifiques. Ahmed Didat, d'accord, j'accepte les faits pour ce que tu en dis, mais dis-moi, depuis quand en as-tu pris connaissance ? Et l'homme de science répond, depuis hier seulement. Ce à quoi le prédicateur répond, 50 années ne sont qu'hier dans l'histoire de l'humanité. Un arabe illettré vivant dans le désert 1400 ans plus tôt ne pourrait jamais avoir votre connaissance de la violente déflagration de l'univers en expansion. Le peut-il ? Fin de citation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ahmed Didat, c'est un prédicateur donc d'origine indienne, qui par la suite a vécu en Afrique du Sud et qui ne s'est pas contenté de propager la littérature concordiste. Il s'est aussi beaucoup intéressé à ce qu'on appelle le miracle numérique du Coran, que l'on peut trouver aussi sur Internet. Et il démontre l'origine divine du Coran en se basant sur la présence, je le cite, de structures mathématiques dont la régularité ne pouvait être ni l'effet du hasard, ni le produit d'un esprit humain, ne disposant pas des techniques sophistiquées que le XXe siècle maîtrise pour la première fois. Alors, dans le même style, on peut citer un grand nombre de sites et d'autres sites analogues à islamfrance.free.fr, mais je pourrais citer aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, à une commission qui s'appelle la Commission internationale du miracle scientifique du Coran et de la Sunna, qui est basée à La Mecque et qui a été créée en 1983 et qui démontre, versée à l'appui, que le Coran avait déjà prédit les trous noirs. Et donc, le verset en question, 81-15-16, parle des planètes qui rétrograde, courant tantôt et tantôt s'éclipsant, alors qui est traduit un peu différemment pour cette commission des miracles du Coran, les astres qui disparaissent courent et nettoient, et pour eux, le fait de dire nettoyer, ça veut dire que voilà, ils attrapent tout ce qui passe, alors je les cite, comme des aspirateurs géants. Donc vous voyez le niveau de cette commission des miracles du Coran, donc, qui est financée par l'Arabie Saoudite et qui est au siège de la Ligue mondiale islamique. Elle a pour mission de montrer, vérifier et publier les miracles scientifiques et contribue à la liaison de la science avec les réalités de la foi, à l'aide de prédicateurs et d'hommes de médias. Alors, je termine mon propos sur le concordisme avec le site Haroun Yahya, qui est très connu, qui est surtout très connu parce que c'est un des sites qui est le plus virulent vis-à-vis de Darwin. Mais ce site développe aussi la littérature concordiste. Alors Haroun Yahya, c'est le pseudonyme du prédicateur turc Adnan Oktar, qui a commencé à écrire dans les années 80 et qui a été très inspiré par la pensée de Saïd Nursi et du mouvement Nursou, dont on parle beaucoup maintenant, qui par la suite, qui est aussi à l'origine du mouvement des écoles Nursou de Fethullah Gülen. Et Haroun Yahya est beaucoup plus sophistiqué dans sa présentation, et quand il parle du Big Bang, il va illustrer son propos avec des photos de la NASA. D'abord la photo du satellite Kobe, Cosmic Background Explorer, qui donc avait été lancé par la NASA en 1989 pour explorer le fond cosmologique, c'est-à-dire les plus vieux photons de l'univers qui ont été émis 380 000 ans après le commencement, je ne dis pas l'origine, du Big Bang. Et donc ce site, par la suite, développe aussi l'expansion de l'univers à l'aide de photos de l'abbé Georges Lemaître, donc un des pères de la théorie du Big Bang, et de l'astronome américain Edwin Hubble, pour donner évidemment du crédit à sa présentation. Alors, c'est un exemple significatif, enfin cet amalgame donc entre les versets coraniques et les références scientifiques. Un texte, bien sûr, qui n'a aucune rigueur scientifique, une manière de se réapproprier la science et de l'islamiser. Alors, c'est une manière de se réapproprier la science, mais il se fait que ces sites aussi peuvent refuter la science quand il s'agit de l'origine de l'homme, et justement Darwin est la cible de ces sites dont j'ai parlé, qui développent aussi le concordisme et en même temps l'attaque de Darwin. Mais le rejet de Darwin, c'est aujourd'hui, dans les pays musulmans, un nouvel enjeu, parce qu'en fait, l'évolution biologique ne posait pas du tout de problème jusqu'à ces 40 dernières années. Et en fait, bon, je voudrais décrire très rapidement quelle a été la réaction à l'ouvrage de Darwin, l'origine des espèces, au XIXe siècle, le siècle de la Narda, de la Renaissance. Donc, un premier point, une réaction de Ahmed Khan, donc une des figures qui a marqué le courant réformiste en Inde, Ahmed Khan, qui avait adopté la théorie de Darwin. Et pour lui, ça ne le choquait pas du tout. L'ouvrage ne l'avait pas du tout choqué. Ahmed Khan, en fait, plaidait pour une rénovation de la théologie musulmane qui devait être fondée sur la raison critique et la science moderne, et considérait que, conformément au Coran, il ne peut y avoir de conflit entre l'œuvre de Dieu et la parole de Dieu. Pour Ahmed Khan, il faut faire appel à l'interprétation métaphorique, ta'wil, lorsque la lecture littérale contredit la raison et la science. Il faut interpréter la cosmogonie selon Copernic et non Ptolémée, nier les miracles, car ils sont contradictoires avec les lois inviolables de la nature créées par Dieu, et aussi refuser de prétendre retrouver la science moderne dans le Coran, message religieux le plus parfait de toutes les écritures révélées, un miracle pour Ahmed Khan par son contenu, et pour d'autres musulmans d'ailleurs. Donc, Ahmed Khan, pour lui, le fait d'accepter la théorie de Darwin n'était pas du tout contradictoire avec sa foi en l'islam. Alors, un contemporain d'Ahmed Khan, le fameux Jemaleddin Afrani, connu pour sa réponse à Ernest Renan en 1883, avait publié, lorsqu'il était en Inde, en 1881, La réfutation des matérialistes, un ouvrage polémique à l'égard de Darwin. El Afrani, donc un des fondateurs du réformisme musulman, voulait renouer avec l'esprit scientifique, comme Ahmed Khan, mais il mettait en garde contre la civilisation européenne qui éloigne le monde musulman de la spiritualité religieuse. Alors pourquoi s'attaquait-il à Darwin ? De quel matérialiste, en fait, parlait Afrani? Ce sont les musulmans occidentalisés, indiens, disciples d'Ahmed Khan, qui étaient visés dans cet ouvrage contre Darwin. Et ce qui séparait Ahmed Khan et Afrani, tous deux réformateurs de l'islam, c'était des divergences politiques. Ahmed Khan était convaincu que pour sauver la communauté musulmane de l'Inde, la connaissance de la langue et de la culture anglaise était nécessaire. de même que la réconciliation entre les musulmans et les Anglais, ce qui lui a valu d'être accusé de collaborateur au service des Anglais, alors qu'il était réellement nationaliste. Et Al-Afrani, dans son écrit contre Darwin, donc la réfutation des matérialistes, qui avait été traduit par Mohamed Abdou, s'attaque à l'école des naturalistes, moins pour leurs idées qu'ils déforment que pour leur anglophilie. Et plus tard, Al-Afrani modère sa vision très dure qu'il avait eue de Darwin, mais il est resté convaincu que de la place unique qu'occupe l'homme dans la création. Alors, à la même époque, le Libanais Hossein El-Jesser accepte l'évolution, mais il adopte un point de vue concordiste et il se base sur le verset 21-30 que je citais tout à l'heure. Nous avons tiré l'eau de toute matière vivante pour considérer que la théorie de l'évolution était acceptable et qu'elle l'était même inscrite dans le Coran. Alors, aujourd'hui, la situation a changé. Darwin est attaqué dans les sites créationnistes, mais il n'y a pas que des attaques de la théorie de Darwin. Et je voudrais commencer par l'interprétation que fait Tarek Oubrou, donc recteur et imam de la mosquée de Bordeaux, qui est connu en France, qui considère que le récit coranique n'est pas du tout contradictoire avec la théorie de l'évolution. Le Coran ne donne pas un récit chronologique de la création. Et Oubrou fait référence à des versets tels que le verset 76-14, Surat l'Insan, que je vous lis, « S'est-il écoulé pour l'homme une période de temps où il n'était pas quelque chose que l'on mentionne ?» Donc, un verset qui pourrait évoquer l'apparition de l'homme dans la durée. Le verset 21-30, comme je citais tout à l'heure. Et pour Oubrou, donc le Coran n'évoque que les premiers moments de l'apparition, je le cite, « de cet ancêtre commun et direct de toute l'humanité » à partir d'une matière inerte, l'argile, et parle de l'origine aquatique de tous les êtres vivants, y compris celle de l'espèce humaine, ce qui pourrait bien être, pour Oubrou, un argument en faveur de la thèse de l'évolution de cet ancêtre à partir d'éléments organiques. Et Oubrou conclut que le récit coranique n'exclut pas du tout la théorie biologique de l'évolution. Bon, bien sûr, pour Oubrou, il n'y a pas d'interprétation concordiste non plus à faire de ces versets. Mais malgré cette lecture donc de certains du Coran, la thèse plus généralement acceptée aujourd'hui par beaucoup de musulmans est la thèse anti-Darwin. Alors, le site le plus violent dans le monde musulman contre Darwin et le site Haroun Yahya dont je parlais tout à l'heure. Haroun Yahya, tout le monde en a entendu parler en 2007 lorsqu'il avait adressé son fameux atlas de la création à tous les établissements scolaires, à certaines bibliothèques, aux rédactions de journaux. Bon, il avait envoyé cet ouvrage qui pèse 7 kilos, qui est absolument impressionnant aussi par toutes ses illustrations. Et le Conseil de l'Europe avait réagi par une résolution, enfin pas uniquement à cette offensive de Haroun Yahya, mais à toutes les offensives créationnistes en Europe. Donc le Conseil de l'Europe avait réagi par un rapport intitulé « Les dangers du créationnisme dans l'éducation ». Et il commentait l'Atlas de la création qui apparaît davantage comme un traité de théologie primitif que comme une réfutation scientifique de la théorie de l'évolution. Alors, la puissance financière de Haroun Yahya doit être relevée. Alors, il n'y a pas que le site, il a aussi une fondation, la Fondation pour la recherche, et la science, une fondation qui organise des multitudes de conférences en Turquie, Et puis aussi des conférences à l'étranger. Haroun Yahya a aussi organisé des conférences à Paris en 2011. Et Adnan Oktar était en relation par visioconférence. Et alors, ce qu'il faut absolument aussi relever, c'est que ce site et les auteurs de ce site sont bien sûr en relation avec les créationnistes américains, avec les responsables de l'Institute for Creation Research, où la science de la création est conçue. Et donc, ces créationnistes américains sont aussi invités par cette fondation turque. Alors, évidemment, il y a une différence entre le récit de la création dans le contexte biblique et dans le contexte musulman, parce que les créationnistes turcs acceptent un univers vieux de 13 milliards d'années, mais les créationnistes américains reconnaissent qu'ils acceptent de s'adapter au contexte turc. Je les cite. Alors, Haroun Yahya présente l'œuvre de Darwin comme une grande imposture et dénonce les conséquences néfastes de sa théorie sur la société, de cette idéologie matérialiste. La seule raison pour laquelle le darwinisme est encore imposé aux gens par le moyen d'une campagne de propagande à l'échelle mondiale est due aux aspects idéologiques de la théorie de l'évolution. Des idéologies violentes telles que le racisme, le fascisme et le communisme, ainsi que d'autres conceptions barbares du monde qui reposent sur le conflit, se sont toutes inspirées de cette Dupri. Fin citation. Et dans l'Atlas de la création, ce sont les événements du 11 septembre 2001 qui servent de mise en garde, avec la légende de la photo historique de l'attaque des tours du World Trade Center. Pour ceux qui veulent voir, le texte existe, l'Atlas de la création est visible sur Internet. Il est téléchargeable d'ailleurs gratuitement. Alors je vais vous lire ce qui est écrit en légende de cette photo, donc du 11 septembre. Quelle que soit l'idéologie qu'ils épousent, ceux qui perpétuent la terreur dans le monde sont en réalité des darwinistes. Le darwinisme est la seule philosophie qui valorise et donc encourage le conflit. Fin de citation. On mesure ici la violence des attaques qui sont contenues dans les écrits du prédicateur turc, dont les nombreux développements sur les espèces vivantes, évidemment, n'ont rien à voir, comme vous pouvez l'imaginer, avec une argumentation scientifique. Alors, je disais au début de mon propos que le rejet de Darwin prenait de plus en plus d'importance. Alors, il est le fait des islamistes comme celui des religions orthodoxes. Alors, les islamistes tunisiens attaquaient déjà ouvertement Darwin dans les années 70, lorsque leur langage était sans masque et que le double discours n'était pas encore dans leurs usages. On peut lire ce refus de Darwin dans la revue Le Marifa, une revue qui avait été autorisée en 1972 par Bourguiba, Bourguiba qui avait laissé faire les islamistes au cours des années 70 pour contrer la gauche. Il ne fut pas le seul d'ailleurs à laisser monter le mouvement islamiste face à la montée de la gauche. Alors, dans le Marifa, donc, les islamistes développent leur discours anti-occidental avec virulence. Alors, ce que je voudrais relever à propos de cette revue, c'est qu'en fait, dans cette revue, il n'y avait pas d'article politique contre Bourguiba. Sur les nombreux articles, 558 articles, 4 seulement ont trait à la politique intérieure tunisienne et aucun de ces articles n'attaque Bourguiba. C'était l'accord passé entre les islamistes et Bourguiba. Et 35% des articles traitent de questions intellectuelles et culturelles, 32% de doctrines religieuses et morales, seulement 9% des problèmes sociaux et donc 6% les problèmes politiques, donc j'ai dit très peu de politique intérieure. Donc, dans cette revue, on peut trouver la lettre ouverte à toute personne qui s'adresse à Dieu. Et voilà comment il parle de Darwin et de Freud. Le darwinisme fait de nous un sous-groupe de l'espèce des singes. Le freudisme affirme que vous courez durant toute votre vie pour satisfaire vos désirs sexuels et va jusqu'à suggérer que notre discours cache notre aspiration pour une relation sexuelle avec nos mères. C'est là un esprit pervers, une aberration évidente. Fin de citation. Alors, ces propos n'ont jamais été démentis depuis. Alors, les théologiens aussi sont opposés à Darwin. Plutôt, ils ne parlent pas de Darwin, mais ils parlent de l'évolution biologique. Et là, je vais citer le Shir Rothman Batir, ancien mufti de la République tunisienne, qui, ces derniers temps, comme il avait été relevé de ses fonctions, a été traité par certains de théologien modéré, ouvert. Bon, alors, je vais vous rappeler ce que disait Shir Batir en 2009, un journaliste de l'hebdomadaire Réalité qui avait fait une enquête sur l'évolution en Tunisie, comment elle était perçue. Et en 2009, donc c'était l'année Darwin et c'était à cette occasion-là. Alors le Shir Batir considère que l'évolution biologique est une théorie erronée car elle ne repose point sur des fondements réels et solides mais plutôt sur des concepts théoriques démentis par la réalité des faits. Si en effet cette théorie était bien fondée, l'évolution aurait continué et l'homme se serait transformé en d'autres espèces. Il importe de mentionner que la science moderne a démenti le darwinisme par la théorie du code génétique. Fin de citation. C'est vraiment sans commentaire. Alors évidemment, quand même, dans cet article, il y avait aussi le point de vue d'une collègue biologiste de la faculté des sciences qui avait rappelé comment les anciens déjà parlaient d'évolution, Al-Jahd, Ibn Miskawi, Erwin Safa et bien sûr Ibn Khaldoun. Alors, concordisme, rejet de la théorie de Darwin, auquel on peut ajouter aussi incohérence par rapport à la science. Bon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le calendrier islamique est encore une question posée. À chaque début de Ramadan, on ne sait pas que faut-il faire. Il faut attendre la soirée pour déclarer que oui, le Ramadan, c'est le lendemain ou le surlendemain, alors que on accepte les prévisions basées sur la même théorie de la gravitation pour les heures de prière, et les heures de prière sont définies à la seconde près, et vous avez les éphémérides des heures de prière sur dans un siècle, on peut savoir à quelle heure on peut prier. Voilà, donc on peut faire, enfin je fais ce constat du blocage par rapport à la science, un blocage par rapport à la science que les réformateurs du 19e siècle aussi faisaient. C'est une réalité. Alors, je voudrais rappeler déjà au XIVe siècle ce que écrivait Ibn Khaldoun, l'historien maghrébin. Lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur le Maghreb et sur l'Andalus, et que le déclin de la civilisation entraîna celui des sciences, les sciences rationnelles disparurent, à l'exception de quelques vestiges qu'on peut rencontrer encore chez un petit nombre de personnes isolées, soumise à la surveillance des autorités de la Sona. Fin de citation. Oui, les sciences rationnelles disparurent. Et elles disparurent même dans nos universités, nos vieilles universités, Zitoun à Tunis, Lazhar au Caire. Et dans ces universités, on n'enseignait même plus la science de nos ancêtres. Et Abdeselem, physicien pakistanais, prix Nobel de physique 1979, faisait le triste constat de l'extinction d'une science vivante au sein de la communauté islamique. Abdeselem, tout le monde sait qu'il était très croyant. Donc, pour beaucoup de musulmans, normalement, il est crédible, peut-être plus que d'autres penseurs qualifiés de laïcs. Donc, Abdeselem mettait l'accent surtout sur les causes internes. Il écrivait « Premièrement, le repli sur elle-même et l'isolement de notre activité scientifique, c'était une des causes. En second lieu, essentiellement, le refus de toute innovation et l'incitation à l'imitation, taqlid. Les dernières années du XIe et le début du XIIe siècle en islam, période qui vit le début du déclin, furent marquées par de violents conflits religieux et sectaires inspirés par des mobiles politiques. » Fin de citation. Et Abdesselem relatait avec tristesse que le seul commentaire qui a été publié dans un journal arabo-islamique sur son travail, donc qu'il avait amené au Nobel de physique, était le suivant. Professeur Selem, en poursuivant ses recherches sur l'unification de ses forces fondamentales, ne fait que suivre la doctrine hérétique soufiste de Wahdatul Wujud. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Alors, bon, on pourrait poursuivre sur ce triste constat pour dire que la science moderne est revenue en pays d'islam, mais elle est revenue revêtue des attributs concordistes ou créationnistes sous l'autorité de différents protagonistes, les garants de la tradition, de l'orthodoxie sunnite et les promoteurs de l'islam politique. Alors, quelques mots sur l'orthodoxie sunnite qui a conduit à une pensée unique qui paralyse l'esprit critique et enferme la masse dans ses certitudes. Le juriste tunisien Ali Mezrani a très bien analysé les fondements de cette pensée dogmatique dans son ouvrage « L'État inachevé ». Il rappelle, par exemple, que dans la tradition, la certitude est le capital de la foi. Et on peut opposer à cela le point de vue percutant de Al-Jahidh, le célèbre prosateur arabe et l'un des théoriciens de l'école mu'tazilite, l'école rationaliste, donc des 8e et 9e siècles. Donc Al-Jahidh qui écrit « S'il y a des degrés dans le doute, on ne connaît pas d'échelle dans la force et la faiblesse de la certitude. » La certitude, c'est un mot-clé dans le nouveau discours sur la science. Et là, je voudrais citer quelques phrases du secrétaire général de la Commission des miracles du Coran, dont je parlais tout à l'heure, donc qui propage la littérature concordiste, une commission saoudienne. Donc, cette commission incite savants et chercheurs et spécialistes en matière de miracles scientifiques du Coran et de la Sunna à élargir le champ scientifique du miracle scientifique. Sans conteste, un canal qui ravitaille les autres canaux de la prédication islamique à l'ère de la science que nous vivons. Alors, dans cette présentation, il n'est pas question, bien sûr, de la dimension spirituelle de l'islam. Mais voilà commence la présentation. Telle est la science et nul ne peut la repousser, à moins qu'il soit fou. Telle est la certitude et nul ne peut la nier, à moins qu'il n'opte pour l'ignorance. Et telle est la méditation profonde des deux signes constants, le signe visible et le signe lisible. Le premier, le signe visible, est un signe perceptible dans la perfection de l'univers, de l'homme et de la vie. Quant au second signe, il est consigné dans le Saint Coran et la Sunna. Et le secrétaire général donc, de la Commission des miracles du Coran rappelle que voilà, les travaux de cette commission va se traduire par un accroissement de la certitude des musulmans. Certitude, un mot-clé. Mais en fait, il n'est pas vraiment question de science puisqu'il s'agit d'aller... Alors je cite ce qui est écrit dans le texte du secrétaire général... d'aller au-delà des hypothèses et des théories afin d'atteindre la vérité scientifique immuable et irréfutable. Donc voilà comment est attribué, enfin les attributs que l'on donne à la science. Alors bien sûr, tout ce qui doit être développé doit être en accord avec les versets coraniques et en accord avec la Sunna et en accord avec les avis de nos pieux prédécesseurs. Je cite la commission. Et donc, on va greffer des petits bouts de science sur cette base incontournable, la certitude du texte. Et là, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer Ibn Taymiyyah, 14e siècle, le maître à penser des Wahhabites, qui écrivait « La certitude du texte ne peut être ébranlée par l'action incertaine de la raison humaine, toujours faillible par ses remises en cause. Non seulement la raison ne peut conduire à aucune connaissance certaine, mais elle produit la divergence et fait naître le trouble. » Et donc, c'est la raison, conçue comme voie autonome de la connaissance, n'est pas acceptée par l'orthodoxie sunnite. Et je poursuis sur Ibn Taymiyyah, pour qui la raison est réduite à une seule fonction, celle de convaincre que tout ce qui vient du prophète est vérité. Son enseignement ne peut dès lors être contredit ni par un argument rationnel, ni même par une autre preuve traditionnelle. Aussi, est-ce la raison elle-même qui invalide ce qui contredit le prophète ? Ce dernier est en effet source de tout le savoir. Le témoignage de ses compagnons n'est pas non plus contestable. C'est vraiment la base de toute l'opposition à la rationalité scientifique que l'on peut voir dans les écrits que je citais, concordistes ou créationnistes. Et donc, cette vision dogmatique, par qui elle est partagée ? Je voulais tout à l'heure faire la différence, et je fais la différence entre ce qu'on peut appeler les représentants d'un islam clérical, c'est-à-dire les imams, le mufti, qui était représentant de l'islam officiel, et les représentants de l'islam politique, dont j'analyserai tout à l'heure les motivations. Mais tous les deux, de toute façon, considèrent que la raison ne peut en aucun cas être une voie autonome de la connaissance, car s'éloigner de la foi, c'est le risque que l'on court si l'on adopte certaines théories. Et à ce niveau-là, les écrits de Razeli, d'ailleurs, sont assez clairs. Oui, je voudrais citer ce qu'il écrit des philosophes et des branches de la philosophie, donc tous et toutes taxées d'hérésie. Quoique sans rapport avec la religion, les mathématiques sont à la base de toutes les autres sciences. Celui qui les étudie risque donc la contagion de leurs vices. Peu s'en occupe sans échapper au danger de perdre la foi. Fin de citation. Alors, c'est cette culture figée, cette culture qui exclut la raison critique, qui a conduit le grand imam de la grande mosquée de la Zitouna, donc la grande mosquée de Tunis, le 12 mai 2012, il annonçait la réouverture des enseignements de la Zitouna à l'image de ceux de l'Azhar au Caire, avec l'ambition de faire renaître la célèbre université de théologie. Et voilà ce qu'il déclarait, donc le grand imam de la Zitouna. « Nous voulons dire au public que les Zitouniens ne sont pas ces médèbes, à la tête enturbanée qui ne savent que psalmodier le Coran sur les morts. Nous sommes des gens de science et de culture, et si Bourguiba n'avait pas fait ce qu'il a fait, et après lui Ben Ali, la Zitouna serait aujourd'hui une grande institution de savoir. » Fin de citation. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Tunisie, bon, on sait que Bourguiba, en 58, dans la réforme de l'éducation, a transformé l'ancienne université de la Zitouna, qui dépendait à l'époque, au moment de l'indépendance du premier ministère, l'a transformée en faculté de théologie, au même titre que les autres facultés, et donc sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Mais ce n'est pas du goût de nos théologiens, je voudrais continuer sur les déclarations de l'imam de la Grande Mosquée, donc en 2012, qui précise qu'il a une autre conception du savoir, et un savoir donc je le cite, qui va puiser sa source dans le rite maléchite acharite, c'est-à-dire dans la tradition orthodoxe sunnite. Et l'imam insiste sur l'éthique que cet enseignement apporte. Nous voulons avoir des médecins zitouniens de cœur qui ont le diplôme de la zitouna et une médecine avec la morale et l'éthique en plus, chose que nous avons perdue pour le moment. Et il continue en attaquant donc les médecins. Évidemment, le Conseil de l'Ordre a réagi tout de suite, le Conseil de l'Ordre des médecins, en demandant à ce qu'il y ait une mise au point de la part des autorités, parce que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, avait approuvé cette déclaration du grand imam de la grande mosquée. Mais la mise au point n'est jamais arrivée. Alors, elle n'est jamais arrivée, puisque déjà en 2012, donc, on était dans un régime qui était... Donc, le gouvernement était à majorité islamiste. C'est ce qui m'amène à parler de l'islam politique, comment l'islam politique s'inscrit. Bon, elle s'inscrit, bien sûr, dans cette fermeture dogmatique, mais pas seulement. Elle prône aussi, je le disais un peu tout à l'heure, l'anti-occidentalisme. Et en fait, dans la conception de ces promoteurs de l'islam politique, la littérature concordiste est un soutien à l'anti-occidentalisme. La science moderne n'est pas le produit de l'Occident. Elle existe dans le texte coranique, révélé il y a 14 siècles. Donc, c'est un discours qui leur permet de récupérer la science moderne et qui conforte le besoin d'affirmation identitaire. Et donc, voilà, on greffe des bouts de science à un discours de l'islam rigoriste qui dénie la démarche rationnelle, qui défie l'Occident, le monde des mécréants. C'est la base du discours déployé par les prédicateurs à l'échelle planétaire. Et je dis à l'échelle planétaire parce que c'est réellement à la mesure des moyens considérables dont ils disposent, des moyens fournis par les promoteurs de l'islam politique, bien sûr, opposés à la modernité et décidés à imposer leur projet politique. Un projet politique dominé par la pensée dogmatique, conditionnant toute la vie sociale et culturelle, ne reconnaissant pas l'individu, et refusant le principe d'universalité des droits de l'homme au nom d'une spécificité musulmane. C'est cet objectif que poursuit le fondateur et premier directeur de la Commission des miracles du Coran. Alors je cite son nom, enfin j'évoque son nom là, c'est un certain Zendeni. Pour ceux qui connaissent, c'est un défenseur du radicalisme islamique, aujourd'hui responsable de l'université religieuse Imam à Sanaa, et donc qui appelle à faire de la charia la principale source du droit dans la future constitution yéménite. Et Zendeni, pour revenir à ce que vous disiez dans l'introduction, en fait, Zendeni est à l'origine d'un texte qui a été distribué à très grande échelle, où l'on explique ce qu'est l'islam, mais il y a tout un premier chapitre qui est tiré du texte de la Commission des miracles du Coran, qui fait référence à des écrits de scientifiques occidentaux, donc qui ont été invités par la Commission saoudienne et qui ont donc été invités à considérer qu'effectivement, la science moderne est inscrite dans le Coran. Et ce petit livre, alors j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains, il s'appelle « Petit guide illustré pour comprendre l'islam », était distribué à la Faculté des sciences en mars dernier au Forum social mondial, la grande entrée de la Faculté des sciences. Donc ils ne perdent pas de temps et ils ont les moyens. Donc ils ont les moyens, et une question, je terminerai par la question suivante, la question grave, quel est l'impact de ce discours sur la science, ce discours donc entre concordisme et rejet de Darwin, quel est l'impact sur nos jeunes? Quel est l'impact sur nos jeunes, bon, qui évidemment sont partagés entre ce qu'ils vivent et puis cette science moderne dont ils apprécient les applications, Internet, les téléphones portables, etc. Et donc, une manière de se réapproprier la science, c'est une manière de donner l'illusion que, voilà, ils partagent la science actuelle, mais en fait, bien sûr, il ne s'agit pas de science, mais d'exploitation de la science. Alors, en donnant un label scientifique au site de propagande islamiste, donc, en fait, le discours se part d'une supposée modernité qui ne laisse pas indifférent beaucoup de lecteurs d'Internet. Et les premières victimes, ce sont les jeunes. On le constate à l'école. Je l'ai constaté il y a longtemps, fin des années 70, à la faculté des sciences de Tunis, à quel point les jeunes sont séduits par ce discours sur la science. Et j'ai eu malheureusement à le constater tout dernièrement, il y a un mois, j'ai participé à un débat, on va dire, sur islam et science dans un lycée de la capitale, un lycée où les élèves sont en principe de très bons élèves et où vraiment j'avais face à moi des élèves très sereins, très tranquilles. Mais j'ai été étonnée de voir à quel point ils étaient à 80% convaincus par le discours concordiste. Et c'est vraiment triste de voir que voilà, ces jeunes-là, c'est l'avenir de la Tunisie quand même. Et ce qui se passe, c'est pas seulement... Malheureusement, je pense qu'on pourrait avoir la même constatation ailleurs. Alors, quelques mots, je vois que le temps passe. 5 minutes encore ?
Oui.
Bon, parce que je voudrais là terminer sur justement les réactions des élèves, comment les élèves perçoivent la science. Et je voudrais citer des enquêtes qui ont été réalisées, aussi bien en Tunisie qu'en Europe, et qui montrent à quel point le problème est inquiétant. Alors... Je vais citer l'enquête de José Luis Wolf, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles et qui a publié un livre extrêmement intéressant sur la question « Sciences, religion et identité culturelle, quels enjeux pour l'éducation ?» aux éditions de Bock. Et donc, il aboutit au constat suivant, je le cite, « Les élèves musulmans ont de réelles difficultés à établir une délimitation nette entre savoir et croyance, malgré l'enseignement scientifique qu'ils ont eu. » Il s'est intéressé à des élèves donc, de l'enseignement secondaire en fin de cycle, donc juste avant le bac. Les élèves musulmans sont globalement d'accord avec l'idée que les croyances personnelles à caractère religieux n'ont pas à intervenir dans la démarche scientifique, mais ils ne sont pas d'accord avec l'idée que, dans la démarche scientifique, les phénomènes naturels doivent s'expliquer sans faire référence aux écritures sacrées. De même, ils sont globalement d'accord avec l'idée que la science se caractérise par le souci de la preuve et de la démonstration, mais nettement moins avec l'idée que cette caractéristique puisse constituer un critère distinctif important entre science et religion. Et cette constatation, en fait, il l'a faite auprès d'élèves musulmans se déclarant très croyants ou moyennement croyants. Alors, en ce qui concerne la théorie de l'évolution, qui est enseignée en Tunisie en classe terminale, des chercheurs se sont intéressés à l'attitude des élèves et ils ont mis en évidence un certain nombre de comportements. Je vais focaliser mon attention sur l'attitude d'ambivalence. Alors, par rapport à l'évolution biologique, l'élève semble considérer il semble considérer la théorie évolutionniste pour l'école, mais il considère une pensée fixiste pour la vie de tous les jours. La théorie de l'évolution leur apparaît difficile à réinvestir dans la vie courante. Et là, je vais citer quelques réponses d'élèves. Ma religion me dit une chose, et voilà l'évolution qui me dit autre chose. Je trouve les deux convaincantes, mais je ne sais pas quelle est la juste. Un deuxième élève. L'évolution est juste à 50%. L'autre à 50% est à une autre religion. Comme ça, je n'ai pas de problème comme beaucoup de mes amis. Et le dernier que je vais citer. En classe, avec le professeur, l'évolution des espèces m'a convaincue. Mais en sortant de la classe et lorsque je discute avec mes amis et mes parents, je trouve que ce n'est pas facile de dire que l'évolution des espèces est juste et que tout ce que je connais, ça fait 20 ans, est faux. Je ne sais pas où est la vérité. Peut-être, lorsque j'avance dans mes études, je peux savoir la vérité. Fin de citation. Alors, comment faire évoluer la représentation des élèves par rapport à l'évolution biologique, qui est une pensée difficile quand même à faire comprendre par les élèves. Et pour terminer, je vais citer l'expérience d'une collègue biologiste à la faculté des sciences de Tunis, qui est didacticienne et qui a fait sa thèse justement sur l'attitude des élèves par rapport à la théorie de l'évolution. Et elle a fait un travail, elle a donc pris en charge un groupe d'élèves et elle a fait un travail didactique avec eux sur la base de deux types de documents, des documents historiques, aussi bien puisés dans l'histoire de la science arabo-musulmane, et puis bien sûr Buffon, Lamarck, Darwin, et puis des documents de recherche relatif au mécanisme explicatif de l'évolution, ayant pour objectif, c'est le deuxième type de document, pour amener l'élève à comprendre comment se construit méthodologiquement le savoir en biologie. Et justement, elle voulait les amener à faire la distinction, ce qui n'était pas arrivé à faire avant ce travail, entre référentiel théologique et référentiel biologique. Et donc, elle cite des réflexions d'élèves au bout de ce travail d'encadrement. Je vais citer la lycéenne Sausen qui dit « Si on se penche du côté de la référence religieuse, tout a été créé sous la forme où il existe là maintenant. Nous, nous ne pouvons rien y ajouter. Telles les choses ont été créées, telles nous les voyons et devons les accepter. Alors que, si nous suivons une démarche scientifique, nous allons chercher pourquoi les êtres sont ainsi. Ils ont évolué. Comment? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont évolué? Autrement dit, nous, élèves, allons nous comporter comme les gens du domaine scientifique. Ils cherchent, ils tentent de retrouver des solutions. » Fin de citation. C'est peut-être ce travail qu'il faut faire connaître aussi de manière plus peut-être plus large, parce que ce travail reste quand même très confidentiel. Ces enquêtes restent aussi très confidentielles et effectivement peut-être que on devrait s'interroger beaucoup plus sur la perception de manière générale de la science chez nos enfants et contrebalancer le travail important, le travail considérable, je le citais tout à l'heure, que font face à nous les obscurantistes, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou chrétiens. Mais je ne veux pas terminer par une note pessimiste. Donc, je voudrais citer la déclaration qui a été faite en 2006 par plusieurs académies, en fait, des académies des sciences de 68 pays. Et parmi ces 68 pays, il y a des pays musulmans, la République islamique d'Iran, le Pakistan, le Royaume du Maroc, la Palestine, la Turquie. Et donc, ces déclarations s'intéressent à l'enseignement de la théorie de l'évolution et au fait que c'est une théorie il montre comment cette théorie est scientifique, et je cite la fin de cette déclaration, qui rappelle que la connaissance scientifique découle d'un mode de questionnement sur la nature de l'univers, questionnement dont les résultats et les effets sont indéniables, mais justement, la déclaration précise que il reste encore des questions ouvertes, et elle insiste justement sur le fait que le questionnement scientifique doit réellement être mis en avant. Je vous incite à la lire, elle est disponible sur Internet. Et je crois que peut-être l'existence d'une communauté scientifique au-delà de toutes les frontières et qui permet de partager les valeurs auxquelles je crois, c'est-à-dire les valeurs universelles des droits de l'homme, eh bien, c'est peut-être l'espoir qui permettra de combattre les obscurantistes de tous bords. Je vous remercie.